Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Bellière, jusqu'à 20h.
À 19h24, je vais saluer les grandes voix qui sont avec nous en studio. Ce soir, Gérard Carrérou. Bonsoir, Gérard.
Bonsoir.
Robert Namias est avec nous. Bonsoir, Robert.
Bonsoir, Mathieu.
Et Charles Villeneuve, évidemment. Bonsoir, Charles.
Bonsoir.
Comment ça va,
Archie? J'ai envie de t'appeler Archie.
Archie?
Oui.
C'est un prénom qui va redevenir à la mode. Hein.
Bah, Archie Chep, quand même.
Je crois qu'on
oui,
va en parler
oui,
avec
oui, Jasmine.
Personne n'a fait allusion à Archie Chep.
Ah, oui. Bravo. Archie Chep.
Benjamin Muller.
Bonsoir les filles, bonsoir Mathieu.
C'est vrai qu'on est avec un trio de
grosses
voix.
Ah, il y a des belles grosses voix.
Vous savez, on a. Le terme est un peu
grande
exagéré
voix.
Parfois, mais on a un petit algorithme. Dans l'équipe, parce que ça tourne. Il y a 5 grandes voix oui. Et vous êtes 3 le vendredi soir avec nous, pour que voilà, on alterne. Et puis une fois de temps en temps, il y a 3 hommes.
Non mais nous, on
la semaine dernière, il y avait Michel Cotta et Catherine Ney. Il y avait les deux femmes.
Voix par le côté grosse voix. On fait ce qu'on peut.
Benjamin Muller, comme chaque vendredi. Cela dit, il fallait leur envoyer. Hein. Salut les filles.
Ouais. J'étais pas sûr mon coup.
Je le garde. Comme chaque vendredi avec vous, on fait le bilan de la semaine du grand journal du soir. Alors une question qui est rituelle désormais. C'était comment cette semaine?
Je dis chaque vendredi que c'était génial parce que j'y suis obligé, mais là je dois le reconnaître, c'est sincère.
Ah bah oui,
c'était vraiment
évidemment.
Génial. Non, c'était très riche. On va déjà commencer en réécoutant ce témoignage qui était très fort, poignant, de l'animateur Thierry Beccaro. Il était ici dans ce studio hier soir. Il raconte dans un livre son enfance maltraitée et explique aujourd'hui que grâce à un très long travail, il a réussi à pardonner.
L'entourage, il connaît pas forcément tout ce que vous avez vécu, parce que ce sont des choses qui ne sont pas racontables. Il y a des événements qui ne sont pas. C'est de l'indicible. Ça ne veut pas dire que j'oublie. Pardonner, c'est pas forcément oublier, mais c'est avancé.
Voilà, un entretien très fort à retrouver dans son intégralité sur europe1.fr. Autre grand moment, cet appel de Paul au 39-21. Il était question d'éducation sans cri ni fessé. Paul nous a tous scotchés.
Mais je voudrais faire part de mon éducation, parce que je suis issu d'une famille de 15 enfants. Et effectivement, à la maison, papa...
Pardon, 15 quelques... enfants?
15 enfants, oui. Moi, j'ai jamais reçu de fessé, jamais reçu de gifle, jamais rien, vous voyez. Mais à la maison, il y avait des règles. Et chaque fois qu'il haussait le ton légèrement, tout le monde rentrait dans le rang.
Voilà, incroyable. 15 enfants et pas un cri. 15 enfants, on peut dire qu'il mérite la Légion d'honneur. Autre grand moment de la semaine, vous avez reçu une sacrée star, Mathieu, pour dialoguer avec nos auditeurs. On sent que vous avez décidé de monter en gamme dans la programmation.
Aujourd'hui, Benjamin Muller est l'invité de et vous allez pouvoir dialoguer avec Benjamin Muller et ça c'est une sacrée chance.
Ah, je peux vous dire qu'à France Inter là ils sont bien dégoûtés de votre exclu d'hier. Bon, à part ça, une semaine où on a pas mal parlé de politique, bien sûr, à l'occasion des 2 ans de Macron, cet appel de Sylviane lundi qui en a marre qu'on fasse un bilan si tôt dans le quinquennat.
Plutôt que les Français manquent de patience. Qu'on juge un président au bout de 2 ans dans les termes de son contrat, je trouve ça abusé.
Voilà, je trouve ça abusé, dit Sylviane, qui a le bon exemple pour appuyer son point de vue.
Ça va beaucoup trop loin et du coup on lui coupe l'herbe sous le pied avant qu'il ait fini de dérouler son programme. C'est comme si vous, par exemple, Mathieu, vous avez des impératifs avec Europe 1, vous devez avoir un objectif, on vous donne 6 mois, et un mois après, on vous dit « alors monsieur, j'espère que c'est fait », et on remet tout à plat par rapport à vos méthodes.
Sylviane, pourquoi vous dites ça? Je pense qu'elle a des infos, Mathieu, c'est flippant. Ne l'écoutez pas, vous êtes
c'est
le meilleur.
C'est la saison de ce genre d'infos.
Absolument. Alors sur la politique, votre chance, Mathieu, c'est que vous êtes accompagné d'une équipe vraiment à la pointe sur le sujet.
Et vous allez répondre, j'espère, au 39-21. Votre sentiment en 2 ans, Emmanuel Macron a-t-il changé la politique? Vous serez les bienvenus, vous n'avez pas l'air très inspiré autour de la table.
Royal plus Baby. Par le Royal Baby, ouais, ouais,
ouais. On va parler du Royal Baby.
Ah, c'est vrai que le Royal Baby, ça nous a beaucoup plus passionnés, surtout vous, Mathieu.
Vous l'aurez compris, donc il faudra encore attendre un peu hein, pour connaître le prénom de ce dernier bébé royal.
Je vous le dis, moi, il s'appelle Jean-Pierre.
Ah bah voilà,
je suis bien informé.
Info Europe, hein.
Mais non, c'est gouré, il s'appelle pas Jean-Pierre, Mathieu, vous êtes trompé, mauvaise source. On a d'ailleurs appris ensemble le vrai prénom, c'était mercredi, il était 17h40. Mathieu, vous étiez en ligne avec Lydie à ce moment.
On me dit qu'on apprend le prénom de ce bébé.
Alors allez-y.
Alors là, j'en profite hein, parce que là, vous m'attendez, là, Lydie, je sais que Nathalie Moreau attend aussi.
Trop fort.
L'art du teasing de Mathieu, tout le monde tend effectivement l'oreille. Et vous, bah, on va dévoiler les coulisses, hein. C'est une petite main qui vous a amené un papier fébrile avec juste le nom du bébé écrit comme ça. Du coup, on vous sent, Mathieu, moyennement sûr de la source, pas hyper serein en l'annonçant, écoutez bien.
Trop fort, attends aussi.
Trop fort.
On est sûr, hein, pour le coup, de la source, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.
Bah, bien sûr qu'on est source de la sûre, bien sûr qu'on est source de la... Vous faites pas
c'était
confiance
qui,
à votre équipe
main?
Ah, c'était moi, voilà. C'est pour ça. Si j'avais pensé, j'aurais noté Jean-Pierre, effectivement.
Merci beaucoup, Benjamin Muller. Archie, c'est le prénom de la semaine, évidemment, et vous verrez, dans 9 mois, il y aura beaucoup d'autres petits
c'est possible.
Qui arriveront. Merci Benjamin, bon week-end. Il est 19h20. Tiens, au passage, quand même, Benjamin Muller, qui était notre invité aujourd'hui, attendez 20h pour parler avec Robert Namias. vous qui sortez un livre cette semaine, là voilà un homme qui sait comment vendre des livres. Fake News avec Michel Cotard, Robert Namias chez Robert Laffont
d'édition.
De mémoire. Robert Laffont hein, de mémoire.
Robert Laffont.
Oui, ça se vend bien. Hein.
Très bien.
Très bien. Voilà, Benjamin qui sort un livre. Prenez-en de la graine, vous allez voir. 19h29 sur Europe 1.
Europe 1.
A tout de suite, on revient avec le débat des grandes voix, Gérard Carrérou, Robert Namias et Charles Villeneuve.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, les grandes voix vous accompagnent, Mathieu Béliard, les grandes voix d'Europe 1 ce soir, Charles Villeneuve, Robert Namias et Gérard Carrérou.
Messieurs, c'est évidemment l'information à la une ce soir. Les deux otages français capturés au Bénin le 1er mai dernier ont été libérés, ainsi qu'une otage américaine et une sud-coréenne libérée par des militaires français, des forces spéciales. Deux militaires ont été tués dans cette opération, nous l'avons souligné il y a un peu plus d'une heure. Une opération d'une grande complexité, Charles.
Oui, d'abord, la région dans laquelle c'est passé est d'une très grande complicité. Tout ce qui se passe au Mali, il faut bien s'en rendre compte, est très complexe. Parce que, si vous voulez, il y a l'opération, et celle-ci aussi en est l'exemple, c'est un mélange, si vous voulez, de plusieurs nations. Et ce qui est essentiel dans cette affaire, il faut le savoir, c'est que le repérage a été fait grâce aux drones américains, qui sont extrêmement nombreux, notamment ceux qui sont basés au Niger. Il y a près de 120 à 180 drones. Vous imaginez un peu le déploiement de Air Force Africa, hein, qui est le commandement militaire américain pour toute l'Afrique. Il y a trois zones de surveillance, et notamment cette zone. Pourquoi ? Parce que, à l'heure actuelle, si le Mali, si vous voulez, central dans le nord du Burkina Faso, ça cède, si Barkhane n'arrive pas à maîtriser ce qui se passe, c'est toute la Côte d'Ivoire qui sera menacée. C'est en cela, si vous voulez, qu'il y a à peine deux mois, le Quai d'Orsay, je crois que l'interlocuteur, l'invité de Sonia Babrik tout à l'heure l'a dit, le Quai d'Orsay l'a placé comme une zone extrêmement délicate, extrêmement surveillée. Et le conseil était surtout de ne pas y aller, parce que c'est une zone de passage aussi des narcotrafiquants, parce que derrière le paravent des narcotrafiquants se cachent aussi les djihadistes, soit d'Al-Qaïda, soit de l'État islamique. Donc cette complexité-là fait que, et c'est ce qui m'étonne le plus dans cette opération, je dois le dire, c'est que c'est l'élite de l'élite qui a vu deux de ses commandos, le commando Hubert, tomber. Et notamment l'un des maîtres qui avait une valeur militaire avec quatre citations au feu. Le commando Hubert, il faut savoir qu'il y a sept commandos marines qui font partie des forces spéciales commandées par le vice-amiral Isnar, qui est très frappé d'ailleurs par la perte de ces deux hommes, puisque lui-même vient du commando, a commandé le commando Hubert. Ce sont des commandos de 80 à 100 hommes, extrêmement... C'est l'équivalent des Navy SEALs américains, ceux qui ont tué Ben Laden au Pakistan.
On est sur des hommes expérimentés
au combat, très expérimentés au combat. L'élite de l'élite, basée à Saint-Mandrier, parce que le commando Hubert est le commando de réserve du service action, c'est-à-dire toujours dans la lutte antiterroriste, qui travaille beaucoup avec le groupe d'intervention, la gendarmerie nationale, et notamment ses tireurs d'élite. Et donc, on ne connaît pas les détails de l'opération, mais il est très vraisemblable qu'ils ont veillé surtout à sauvegarder les otages, quand ils se sont aperçus sans doute qu'il y avait quatre otages et non pas deux, notamment les deux Français. Donc, pour ces deux Français qui ont été sauvés, tant mieux pour eux, être allé dans cette zone était vraiment comme une sorte de provocation.
Quatre otages libérés, il faut le rappeler, parce que c'était leur mission quand même à ce commando Hubert. On va souligner, rendre hommage à ces deux militaires tués, mais quatre otages, grâce à eux, ont été libérés et quatre ravisseurs ont été tués pendant cette opération. Gérard Carrérou.
Oui, moi je suis le premier à saluer l'exploit, comme a dit Madame la ministre
Florence Parly.
L'exploit de nos commandos. En même temps, je trouve que c'est une belle libération pour les quatre otages qui en ont bénéficié. Je trouve que c'est un exploit extrêmement coûteux. Extrêmement coûteux, puisqu'il nous a coûté deux de nos meilleurs soldats d'élite engagés dans des opérations. Et effectivement, moi, j'ai tout de suite pensé, mais j'y avais pensé déjà il y a 10 jours, quand on a appris que deux, je les ai vus à la télé, les deux messieurs. Bon, tant mieux s'ils sont sauvés, ils arrivent demain en France. Mais quand j'ai vu qu'ils étaient allés se balader, comme on va visiter un parc national dans un pays tranquille, deux types qui partent pour visiter...
C'était au Bénin, hein, c'était pas...
Oui, mais c'était au Bénin, mais le Bénin, il est déjà inscrit sur l'agenda du
Quai
d'Orsay.
Oui, mais si, le parc de Pendjari, le parc de Pendjari est recommandé, non fréquentable par le Quai d'Orsay.
Recommandé, bien évidemment, de ne pas y aller. Je trouve qu'il y a une forme d'inconscience de gens qui se disent, bah, après tout, l'Afrique, on a envie, et puis il faut se balader, puis après tout, c'est la liberté de se promener. Oui, après, ça coûte deux morts qui étaient parmi nos meilleurs soldats. Et on a vu d'ailleurs, c'est rare de voir le général, le chef d'état-major, presque pleurer en disant, pour la France, c'est nous deux fils, mais pour nous, les militaires, c'est deux frères. Deux frères. Donc, moi, je trouve que cette victoire, c'est pour ça que je dis cet exploit, je le salue, mais je le trouve un peu trop coûteux. Et deuxième réflexion, et je me banderai là parce que je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, mais quand on regarde sur la... Je dis simplement, faites un peu de géographie. Regardez sur Internet ou sur un atlas. Quand on voit maintenant la zone dite de l'Afrique subsahélienne, et qu'on s'aperçoit que c'est plus seulement... Alors aujourd'hui, le Bénin, maintenant, y est entré de plein pied. Mais c'est le Burkina Faso, c'est le Mali, c'est le Niger, et c'est des infiltrations dans un certain nombre. Ben regardez sur la carte de l'Afrique, pourtant l'Afrique c'est grand, mais ça commence à représenter un très gros bout. Et je me dis combien de temps et combien d'hommes faudra-t-il pour que... On a 4500 hommes là-bas, on a les yeux et les oreilles américaines pour nous aider, mais combien de temps la France seule peut-elle tenir ce rôle de gendarme de l'Afrique contre tous les groupes terroristes dans une zone aussi immense?
Elle est fortement quand même, juste, pardon Robert, elle est fortement aidée par les forces américaines et notamment les drones en quantité.
C'est ce que je viens de dire en disant les yeux et les oreilles. Oui.
Non mais juste, je voudrais apporter une précision, c'est que le Burkina Faso, les troupes les Burkinabés ont participé à l'opération aussi, hein, les soldats burkinabés. Il faut savoir que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, dans cette région, parce que le Burkina Faso est à quelques pas du Bénin, hein, la frontière n'est pas loin, c'est pour ça qu'ils étaient détenus dans
rivière,
ce petit camp. Absolument. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des massacres en permanence entre Peul et Dogon. Ce sont deux grandes tribus. Les Peuls, d'ailleurs, traversent quasiment toute l'Afrique. C'est une tribu bien très sûr connue. Les hommes sont très grands, balèzes, hein, comme on dirait, etc. Et ce sont des conflits qui datent du XVIIIe siècle. Et ça dure toujours aujourd'hui. Avec ça, vous avez les narcotrafiquants et avec ça, vous avez les djihadistes.
19h38.
Europe 1.
On revient dans quelques instants. Le débat qui continue, évidemment, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Robert Namias dans un instant. À tout de suite.
19h40 sur Europe 1. À vos côtés, Mathieu Béliard, les grandes voix d'Europe 1. Charles Villeneuve, Robert Namias et Gérard Carrérou.
Et Robert, on parlait donc de cette opération particulière, héroïque, des soldats français pour libérer ces otages. Décision qui a été prise d'intervenir de la sorte, décision politique.
Oui, c'est une décision doublement politique, à mon avis. D'abord, on ne l'a pas encore beaucoup souligné, on y viendra sans doute, mais quoi qu'en ait dit les prédécesseurs d'Emmanuel Macron, beaucoup finalement se sont arrangés pour payer des rançons. On a toujours démenti, bien évidemment, on ne l'avoue. Enfin, les valises de billets ont souvent circulé, là je parle sous le contrôle de Charles Villeneuve. Et donc, il y avait une règle qui était qu'on ne payait jamais, en réalité... les ravisseurs ne relâchaient que s'ils avaient des monnaies sonnantes et trébuchantes. Là, on a marqué qu'effectivement, on ne paierait pas et que malgré tout, on ferait en sorte que les ressortissants français soient sauvés. Et ça, c'est un geste politique assez fort qui marque un tournant. Alors, je ne sais pas si c'est un tournant définitif, si vous voulez. D'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier, d'ailleurs. Il y a actuellement encore une otage française depuis près de deux ans au Mali. Et qu'il n'arrive pas à repérer complètement. Mais on ne cesse de dire qu'elle est activement recherchée et que ses ravisseurs sont activement recherchés. En tout cas, c'est très important parce que le choix de Macron n'est pas indifférent. Dans la situation assez complexe dans laquelle il se trouve aujourd'hui, y compris à l'international, puisque comme il est affaibli en France, il est évidemment affaibli à l'international, aussi bien du point de vue européen que du point de vue américain, notamment. Et là, il s'est passé deux choses. Un, Il a confirmé qu'au fond, quelles que soient les relations diplomatiques très compliquées avec l'administration Trump, etc., bien évidemment, les armées coopèrent et que rien ne pourrait se faire sans l'armée américaine et sans les technologies américaines, notamment de renseignement, et que de ce point de vue-là, quelles que soient les relations au niveau des gouvernements, rien ne change. Et c'est une vraie coopération franco-américaine en Afrique, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est qu'il se trouve, c'est un hasard, il se trouve quand même que c'est l'armée française et donc la décision du gouvernement français et du président qui font qu'une otage américaine a également été libérée, comme une sud-coréenne d'ailleurs. Donc c'est quand même au-delà de l'aspect héroïque, de l'aspect très réussi malgré la mort tragique de ces deux soldats, c'est un vrai tournant politique et ça a du sens politique.
Oui, ce qui a surtout du Gérard. Sens, je suis d'accord avec ce que vient de dire Robert, ce qui a surtout du sens, c'est qu'on fait souvent une partie de l'opinion en France, parce qu'on n'aime pas Trump ou parce qu'on n'aime pas je ne sais pas qui en Amérique, on fait souvent semblant de penser que nous, on est capable de faire tout seul. Or, je pense qu'il était très juste de la part de la ministre, de la part du chef d'état-major et de la part du gouvernement français qui a exprimé ses remerciements directement dans l'heure qui a suivi aux Américains. Car je pense que l'opération, aussi belle soit-elle dans sa conception, n'aurait pas pu être réalisée sans l'appui des drones, des capteurs et des grandes oreilles américaines. Bon, il faut le savoir.
Il y a la technologie américaine et le courage, la vaillance de ces hommes français.
On a des troupes exceptionnelles, on a des commandos. Ceux-là en faisaient partie, ces commandos de marine exceptionnels. Et on a besoin des technologies. Et par exemple, les drones, on a un retard. Tu parlais du chiffre des drones, Charles. On a un retard considérable.
On a 3 drones à l'heure actuelle, mais pas des drones de tueurs. Comme les Reaper américains, on a 3 drones français qui sont sur zone. On a à peu près 200 forces spéciales qui accompagnent les 4500 hommes de l'opération Barkhane. Mais ce que tu soulignes, c'est l'interopérabilité, de toute façon, de toute action militaire. Et ce qui est vrai, là, dans cette opération, dite complexe, et elle l'était, en tout cas, puisqu'elle est terminée, c'est toujours, de toute façon, une opération combinée avec plusieurs forces. Il est bien évident qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que sur le plan matériel notamment, il n'y a rien de comparable avec l'armée américaine. Aucune force aujourd'hui, quelle que soit la nation, si vous voulez, dotée d'une armée opérationnelle, ne peut être comparée avec le matériel américain, la puissance américaine. Imaginez que nous avons juste un petit exemple. Nous avons un porte-avions nucléaire de 33 000 tonnes, le Charles de Gaulle. Les Américains en ont 15, dont 8 nucléaires, qui font 104 000 tonnes. C'est-à-dire qu'à bord, il y a une flottille d'avions de 80 avions, quasiment la chasse française, sur un seul de ces porte-avions. Donc, sur le plan de la surveillance, si vous voulez, satellitaire, il n'y a rien de plus puissant et d'une couverture aussi globale que celle des Américains.
Interopérabilité.
Pour souligner quand même la complexité, la difficulté, et l'exceptionnelle réussite de cette opération, encore une fois, malgré la mort tragique de ces deux officiers, c'est
alors
que...
Dans la marine, les sous-officiers, on dit que ce sont des officiers mariniers.
Absolument.
Voilà, c'est l'appellation.
Absolument. C'est qu'il y a peu d'opérations de cette nature, d'où le fait peut-être que parfois on a payé des rançons, parce qu'elles sont d'une infinie délicatesse et que beaucoup... se solde par la mort des otages. Je vous rappelle quand même qu'en Somalie, il y a quelques années, notamment, c'est en 2013, au moment où Hollande faisait libérer un certain nombre d'otages au Mali, en même temps, il avait lancé une opération en Somalie pour libérer un officier, un espion de la DGSE, c'était un otage français, et l'opération a totalement échoué, et finalement, l'otage a été tué. Il y a eu d'autres opérations de cette nature qui se sont mal terminées. C'est dire à quel point c'est une décision militairement compliquée et politiquement difficile à prendre.
19h46. A tout de suite sur Europe 1 avec les grandes voix. Gérard Carrérou, Robert Damias, Charles Villeneuve.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec les grandes voix d'Europe 1 le vendredi soir, Robert Namias, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Et on revient sur le terrain politique pour dire un mot quand même de cette campagne des européennes, élections, scrutin le 26 mai prochain, je le rappelle. Gérard, cette semaine, Emmanuel Macron, clairement, il a retroussé les manches, il est entré dans la campagne.
Ah oui, plus que clairement, il s'engage, mais alors complètement, totalement, au-delà. Jusqu'à présent, les présidents successifs, quand il y avait des européennes, ils mouillaient un peu la chemise. Mais pas au niveau de ce que fait Macron actuellement. Alors, vous me direz, pourquoi le fait-il ? Bah, d'abord, il le fait parce que c'est son tempérament. Clairement, cet homme a besoin de bouger en permanence. Et alors, il avait prévu de le faire. Il a pris l'option.
Tu veux dire qu'il aurait fait un bon commando, c'est ça ?
Peut-être, peut-être. Mais il a pris l'option d'être effectivement le défenseur de l'Europe dans tous les pays d'Europe, de se présenter comme l'adversaire des populistes partout en Europe, etc. Et puis, il a vu surtout, ça c'est la première raison, donc son tempérament. La deuxième, c'est manifestement les mauvais résultats ou les piètres résultats de la tête de liste qu'il a nommée. De temps en temps, oui, on fait des choix. Bon, manifestement, c'est pas un cador pour gagner des suffrages, Madame Loiseau, ce qui fait que le président est obligé de mouiller la chemise. Mais, j'ajoute tout de suite, et je laisse la parole aux autres, c'est un risque incroyable, oui, qu'il prend. Parce que, vous savez, c'est quitte ou double. Où il gagne, sa liste arrive devant celle du Front National, en tête de toutes les listes, et dans ce cas-là, eh ben, il rétablit effectivement une situation politique qui est quand même encore largement compromise. Il a rétabli, on dira, ben, quand même, les premières élections du quinquennat, hop, c'était difficile, il les a gagnées. Mais s'il les perd, si Marine Le Pen est devant...
Il s'est exposé.
Avec, oui, alors je ne dirais pas que Madame Le Pen, dont je ne partage pas les vues, de toute façon, s'il perd, il est foutu.
T'as tout dit, là, t'as tout dit.
Il y a d'autres listes, il y a 33 listes. Hein.
Mais ça va être très dur après, 34, quand même. C'est très dur après.
Robert.
Oui, bon, je crois que c'est vrai qu'il joue gros, il le sait, et il l'assume. Cela étant, Gérard disait, il s'investit plus qu'aucun de ses prédécesseurs, et pour cause. Ce sont des élections intermédiaires qui ont toujours été perdues par le pouvoir en place, d'ailleurs. Et on se dit, mais comment, si Macron...
Sauf Sarkozy en 2009.
Oui, mais honnêtement, ça a été la seule fois.
Oui, hein, bon, voilà, c'est ça. C'est vraiment mais une nettement, exception. Il avait gagné nettement.
Absolument,
27
c'est vraiment
points.
Une exception. Et parce que c'est une élection en plus intermédiaire et à la proportionnelle intégrale et qui a toujours été favorable au Front National. Et d'ailleurs, c'est si vrai qu'on oublie que dans les dernières élections...
Le FN était en tête.
Non seulement Marine Le Pen était en tête, mais elle était à 25%, elle était largement en tête, elle était dominante. D'ailleurs, c'est à partir de ces élections européennes qu'elle avait décrété qu'elle était le premier parti de France et que tout lui était ouvert. Cela étant, effectivement, je pense qu'à partir du moment où Macron s'investit comme il s'est investi, il aurait pu ne pas le faire... c'est un quitte ou double.
Oui,
c'est un quitte ou double. Mais c'est lui qui a choisi de le mettre sur la table. Il fait tapis.
C'est logique. Il fallait s'y attendre. Pour deux raisons. D'abord, parce que tout d'un coup, il s'est brutalement réveillé quand il a lu le fameux rapport de l'ONU et la disparition brutale d'un certain nombre d'espèces. Et notamment, il y a une espèce volatile qui risque de disparaître dans cette affaire, c'est l'oiseau.
C'est Nathalie, oui, hein, voilà.
Donc, il est normal qu'il aille à son secours.
Je ne peux pas croire à la sincérité de ce propos.
Je ne la voyais pas venir.
Non, mais écoute, il y a quand même un... Le cas est exceptionnel quand même, et différent de toutes les autres élections européennes. C'est vrai que le Front National, tu le rappelais, Robert...
Largement.
Sauf que, qu'est-ce qu'elle en a fait ? Tandis que là, la situation est différente en ce sens où s'il n'arrive pas premier, il aura du mal à réenclencher les réformes, notamment. Parce qu'il a toute la crise sociale des Gilets jaunes, qui n'est toujours pas terminée. Il y a quand même un résidu assez important encore. Et s'il est battu, s'il arrive derrière, l'assurance chômage, les retraites, la fonction publique, il aura du mal à réenclencher les réformes. Donc, il est nécessaire pour lui, et je pense que c'est son calcul, d'arriver premier, en tête. Et c'est la raison pour laquelle il met la surmultipliée et il rentre dans l'action. Avec ce qu'a souligné Gérard, avec un risque énorme. Parce que là, s'il perd, ce sera un référendum négatif pour lui par rapport à la crise sociale des Gilets jaunes.
Est-ce que vous ne croyez pas à la remontée, à l'effet François-Xavier Bellamy sur les Républicains derrière ? C'est le seul parti qui est à deux chiffres dans les sondages, à part le RN.
Qu'est-ce que vous appelez la remontée ? Bon, s'il fait effectivement, peut-être il fera 16...
Il a commencé à 8. Hein,
oui, il a commencé à 8. Il semble que là, il soit un peu stoppé dans sa montée, autour de 15 plus, disons 15-16. Bon, s'il fait 16, tout le monde dira très bien, il a fait un beau score. Bon, mais c'est quand même loin du score de ce qu'était la droite. Même Fillon, avec les difficultés de la campagne, était à 20 points. Donc la remontada dont vous parlez, ou alors il faudrait que Bellamy fasse 20 points, ce que personne ne voit poindre à l'horizon pour l'instant. Non, mais sur Macron, il y a juste un point en plus, mais qui touche justement à la droite, c'est qu'on avait eu l'impression à un moment donné, on l'a vu avec la nomination de Philippe, avec un certain nombre de ministres venant des partis républicains, on avait l'impression qu'il avait capté, il avait une machine à capter une partie de l'électorat de droite.
Il l'a encore.
Mais sauf que là aussi, ça s'est stoppé.
Oui, c'est-à-dire que il est 6 points à moins chez les Républicains, mais il garde quand même son socle à 28
points par rapport à ce qu'il a fait au premier tour. De responsables républicains, dont on disait ils sont Macron compatibles, qui se rapprochaient de lui, sont en train plutôt de revenir au bercail, c'est-à-dire chez eux.
Robert, un dernier mot ?
Oui, le dernier mot, c'est méfions-nous des sondages. Non, mais sérieusement, parce qu'alors là, franchement, en plus, sur un électorat qui est quand même, semble-t'il, très peu mobilisé.
On va rappeler que en tête, c'est l'abstention.
Il y aura d'autres leçons à tirer. Si jamais, quand même, on regarde les sondages aujourd'hui, on s'y autorise, parce qu'on parle un peu sur du vent, mais on s'y autorise, c'est quand même l'effondrement de Mélenchon. Mais un effondrement politique, total.
Mais il faudra qu'on parle de la gauche à un moment.
Les 19% de Mélenchon, les 600 000 voix près, etc. Alors, encore une fois, ce ne sont que des sondages.
Mélenchon, le PS, on n'est pas sûr qu'il fasse les 5%.
Ça remettra en perspective à nouveau 3%. Le face-à-face entre En Marche et le Front National.
Oui. Merci messieurs, on va suivre évidemment, vous le savez, et vous qui nous écoutez tous les soirs, vous savez qu'on... Je ne sais pas comment le dire, on la prend au sérieux cette élection, même si les Français, beaucoup de Français ne s'y intéressent pas.
Non mais parce que tu sors, parce que tu es en plein de justement toute cette crise sociale dont on parle tous les jours, et il est bien évident qu'on va mesurer ça à l'aune justement du 26 mai.
Évidemment, 26 mai prochain, le scrutin, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous trois, Gérard Carrérou, Robert Namias et Charles Villeneuve. Le débat des grandes voix, comme tous les vendredis soirs.